France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Comment vivre dans ce monde de dingue et ne pas devenir fou pour son deuxième long métrage Bonjour l'asile. Judith Davis mouille la chemise et propose des solutions. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais pour leur place à la critique avec deux films qui sortent aujourd'hui, Queer de Luca Guadagnino et A Real Pain de Jesse Eisenberg. Voilà le programme, bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous, amis critiques. Philippe Azoury, journaliste critique et auteur.
Bonjour Marie.
Bonjour Raphaël Pirer, critique de cinéma pour les revues AOC et Trois Couleurs.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Et on commence donc avec le nouveau film de Luca Guadagnino. 8 ans après le succès de Call Me By Your Name, le réalisateur italien adapte sur grand écran Queer, le roman de William S. Burroughs. Écrit en 52 mais publié seulement en 85, ce texte raconte un épisode de la vie de l'écrivain phare de la Beat Generation. Son errance mexicaine à la recherche d'une plante censée favoriser la télépathie, mais à la recherche aussi de beaux garçons, ce qui l'amènera à rencontrer le jeune Allerton, avec qui il entretiendra une relation douloureuse. Dans le rôle de Lee, le double de Burroughs donc, Daniel 007 Craig, bien moins fringant que l'espion en smoking. On commence par un avis rapide de l'un et de l'autre, et c'est à vous Philippe Azoury.
Je trouve le film à la fois intelligent et inégal, ou inégal quoique intelligent, ou en permanence intelligent. J'arrive pas à le démêler.
Raphaël Pirer.
Je dirais que les deux grandes questions de Luca Guadagnino, c'est à la fois la naissance du désir homosexuel, son refoulement, son acceptation, sa déclaration, et puis la confrontation de lui en tant que cinéaste à l'histoire de l'art, et qu'en s'attaquant à ce roman de William Burroughs, Guadagnino se laisse un peu étouffer par son modèle et par l'envie de bien faire, et peut-être même l'envie de dépasser le maître. Et à mon avis, ça étouffe un peu l'émotion aussi.
Avant de poursuivre, on va écouter donc la bande-annonce de Queer.
We're all parts of a tremendous whole. There's no use fighting it. Those parts ought to work together. You know, to conquer ignorance and prejudice and hate. With knowledge and sincerity and love.
La difficulté, c'est de convaincre quelqu'un qu'il fait vraiment partie de vous. Mais pourquoi pas essayer ?
Je veux te parler. Mais sans parler.
La bande-annonce de Queer de Luca Guadagnino. Philippe Azoury, est-ce que le temps de cette bande-annonce a réussi à décider si c'était inégal et intelligent?
Je crois que un siècle n'y suffirait pas. Non, en fait, j'ai toujours ce problème, et c'est pas tant un problème que ça d'ailleurs avec les films de Luca Guadagnino, parce que c'est quelqu'un qui m'intéresse. Me passionne, je sais pas, mais m'intéresse vraiment. C'est-à-dire, je ne sais jamais à quoi m'attendre avec lui, je ne sais jamais quel prochain film il va faire. Apparemment, il annonce 6 ou 7, dont un remake d'American Psycho, un remake de Scarface, une adaptation de Une chambre à part, je sais plus comment ça s'appelait, un roman homosexuel italien des années 70. Il a aussi un film avec Julia Roberts. Enfin, il a toujours quelque chose sur le feu, et il arrive toujours à s'approcher de chacun de ses projets, à la fois avec beaucoup d'intelligence, beaucoup, beaucoup d'acuité, et sans jamais non plus rien révéler de ce qui le hante totalement. Mmh. Ce qui est très troublant d'ailleurs, parce que quand on s'approche de William Burroughs, Raphaël disait, est-ce qu'il veut rivaliser avec le maître? Je crois que c'est même pas sa question, parce que ça peut être la question par exemple de David Cronenberg, lorsque Cronenberg avait adapté Le Festin nu au début des années 90, où réellement on sentait que Cronenberg est habité depuis toujours, il a été éduqué quasiment par la vision du monde de Burroughs. Chez Guadagnino, c'est différent. J'ai l'impression que Queer, c'est presque d'une certaine manière le titre qui l'intéresse plus que le livre en lui-même, qui est un livre assez mineur d'ailleurs que Burroughs avait écrit en 50, ça relate des événements de 1949, il l'a écrit en 51, il l'a sorti qu'en 85. Mmh. Mais l'intelligence de Guadagnino, quand il s'empare quand même du livre et qu'il le fait avec beaucoup de sérieux, c'est que justement, il ne le fait pas avec trop de sérieux et trop de révérence. Il le fait avec beaucoup d'humour. J'ai amené le livre de Burroughs parce qu'il faudrait relire la première page, enfin, la première phrase, hein, juste la première phrase, pour comprendre un peu ce que ça veut dire queer, ce que c'est que ce livre-là. Il dit, du temps où je vivais à Mexico, à la fin des années 40, c'était une ville d'un million d'habitants baignée d'un air clair et limpide, sous un ciel de ce bleu qui se marie si bien avec le sang, le sable et le tournoiement des vautours, le bleu mexicain dur, inquiétant et impitoyable. C'est-à-dire, il y a tout et son contraire. Et il y a beaucoup d'humour. Il y a du sordide et de l'humour. Il y a du désespoir total et quand même quelque chose de sarcastique. Et le film de Guadagnino arrive à trouver ça, ne serait-ce que dans sa première partie, qui est très très belle à mon sens. Où il arrive à inventer un climat qui est assez languide, sensuel et en même temps cassant. Dur amer, qui est vraiment dans le ton de Burroughs. La deuxième partie, il va prendre un chemin différent.
Donc c'est la quête, hein.
Oui, ils vont partir à Quito, et puis tout au long de l'équateur, pour essayer de trouver du yagé ou yage, enfin c'est l'ayahuasca, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ayahuasca. Et là, le film prend un ton littéralement burlesque, ce qui n'est pas une mauvaise idée, je veux dire, en soi. Mais c'est vrai que ça donne un film, au final, qui est sans doute pas très très habité, ou habité sur ce qu'intéresse Guadagnino, aujourd'hui, au sens du contemporain, c'est-à-dire finalement une sorte d'espace-temps, de géographie. Enfin, j'y reviendrai peut-être un peu. Le temps de me décider.
Oui, c'est vrai que cette question du queer, elle est centrale dans le film. Et ce terme qui veut dire un peu tout et son contraire aussi, quoi, comme le Mexico City que reproduit Guadagnino dans les studios de Cinecittà.
C'est quand même pareil. On voit bien que c'est en studio, quand même.
Ouais,
hein, c'est très nettement.
Le studio s'affiche complètement. Et puis, il fait appel au chef opérateur Sayambu Mugdiprom, qui a signé l'image de beaucoup de films de... d'Apichatpong Veracetacool, de Miguel Gomes aussi. Et donc, on est vraiment dans une palette de couleurs qui est sublime et qui est très, très loin du réalisme. Et donc, cette question du queer, c'est un terme qui désigne l'homosexualité de façon péjorative, mais aussi revendiquée. Ça désigne aussi une espèce de beau bizarre qui est très importante pour Guadagnino. Et donc cette idée-là, elle innerve le film. De qu'est-ce que c'est que ce revendiqué queer avec un personnage qui est Lee, qui est le double de Burroughs, qui dénie le fait d'être queer et qui le clame aussi, qui est toujours dans cette espèce de double mouvement. Et je suis très étonnée parce que dans ses interviews, là, ces jours-ci, Guadagnino parle beaucoup de l'histoire d'amour qui était vraiment pour lui au centre du récit, alors que pour moi, c'est beaucoup plus un film sur la honte de soi, sur le refus, sur cette histoire, c'est beaucoup plus une histoire entre les deux hommes qui ont des âges différents, de domination, de rejet, l'amour, la sensualité, moi, je les trouve pas du tout dans le film, mais vraiment à aucun moment, quoi.
Philippe Azoury, la sensualité, vous la retrouvez?
Je suis absolument d'accord avec Raphaël sur le fait que réellement le refoulement, la honte de soi, une sorte de jouissance, mais dans l'abjection de ce que l'on est devenu, et de la déchéance que l'on traîne. C'est réellement le moteur du film. Et moi aussi, je suis étonné, en écoutant Guadagnino vendre le film, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit,
oui,
en l'orientant du côté plutôt d'une acceptation de la construction, enfin, d'un personnage homosexuel qui se révèle à Mexico. La sensualité, elle est ailleurs dans le film, et elle est, je pense, effectivement, dans ce climat, dans cette espèce de langueur, comme ça, qu'il a dans le tout début. Vous disiez, reconstitué en studio, je crois que c'est reconstitué à Cinecittà.
Oui, c'est ce que disait Raphaël.
C'était un moment d'absence, on va dire, mais avec un travail sur les couleurs, et notamment les bleus, les rouges, qui est littéralement proche des photos de William Eggleston ou de ce qu'on pouvait faire en Kodachrome dans les années 50. C'était vraiment au moment justement où Burroughs était au Mexique. Alors que Burroughs décrit dans ce bleu comme ça cruel, mais des endroits sales, des endroits qui tâchent. Ça ne tâche jamais chez Guadagnino, mais ça n'a jamais été son but. On lui a assez reproché. Moi, il m'intéresse beaucoup, donc c'est un reproche que je mets un peu entre parenthèses, mais c'est parce qu'il faut entendre ce qu'il y a dans ce reproche. On dit c'est un styliste, c'est un décorateur d'intérieur. Bon, là, pour le coup, c'est plutôt un décorateur d'extérieur. Mais je pense qu'effectivement, il travaille à la façon de... On a dénoncé ses accointances avec Fendi, par exemple, ou Louis. Mais c'est vrai qu'il y a chez lui quelque chose du designer de mode, du créateur de mode, au sens où j'emprunte un élément d'une culture pop underground intéressante d'il y a 4, 5, 6 décennies et je le réactualise aujourd'hui avec l'ouverture d'un air du temps, avec quelque chose de totalement contemporain. Il y a une redéfinition du contemporain. Il le fait notamment là avec la musique, c'est assez troublant parce que tout au long du film on entend Nirvana, Prince. Ça commence par une reprise de Nirvana par Sinead O'Connor que je ne connaissais pas, qui est sublime.
Qui est très belle. Ouais.
Mmh. Merci Guadagnino. Comme il avait fait le coup avec les Psychedelic Furs au moment de Call Me By Your Name. C'est vraiment, il tisse un espace-temps qui est totalement insaisissable pour arriver à ne prendre que ce qui l'intéresse lui. Et finalement, ce qui l'intéresse, c'est quand même un peu toujours la même chose depuis un bon moment. On le voyait dans Call Me By Your Name. On le voyait aussi déjà dans le remake de La Piscine de Jacques Deray, qui s'appelait A Bigger Splash. C'est une coterie de gens plutôt très intelligents, très libres sexuellement, et qui, souvent anglo-saxons, et qui se baladent comme ça dans le monde entier. Alors, Bigger Splash, c'était plutôt des grandes maisons au bord de l'eau, en Italie, plutôt voilà, enfin, du côté de la Lombardie où lui, il réside. Là, c'est au Mexique, avec quelque chose d'un peu plus... Bon, évidemment, d'un peu plus sordide, d'un peu plus épais, ou d'un peu plus drogué, enfin, éminemment drogué. Mais il en fait quelque chose de cette espèce de coterie internationale qui ne cesse de dériver de film en film. Après, il y a ce qu'il fait avec Daniel Craig, qui est quand même
assez hallucinant. Voilà, c'est la question. Alors, Daniel Craig, Raphaël Carr.
J'ai l'impression qu'une des envies de Guadagnino, c'est de queeriser Hollywood. Il prend James Bond et puis il lui fait tourner des scènes de sexe qui sont quand même assez osées. Donc il y a un peu cette mise en scène-là de Daniel Craig qui joue un écrivain qui est très mal à l'aise avec son corps, qui est vraiment dans le déni de son désir et qui a envie d'approcher un jeune homme et il n'ose pas trop. Et puis, progressivement, on va le voir beaucoup nu et beaucoup dans des postures où on a du mal à croire ce qu'on voit quand même. Il y a la scène de sexe quand ils sont en villégiature, là, qui est un moment de voyage, mais qui est aussi un moment de conjugalité où le titre de cette deuxième partie, c'est Compagnon de route et c'est à prendre dans les deux sens que la conjugalité, c'est un voyage. Et c'est aussi un moment où Burroughs est marié dans sa vie à une femme et qui est un moment aussi assez central de cette séparation avec sa femme. Et oui, donc c'est assez... À la fois, je trouve que Daniel Craig joue d'un côté grotesque ce personnage d'écrivain mal à l'aise et qu'en même temps, il donne vraiment de sa personne pour tout ce qui est d'exposer son corps et d'y aller assez franco dans l'exposition des scènes sexuelles, quoi.
Et qu'est-ce qu'il fait de l'épisode, justement, du meurtre de sa femme, enfin, en tout cas, qui a été un accident, même.
Il en fait un épisode métaphorisé qui est à la fin, qui n'est pas très explicite si on ne connaît pas l'élément biographique de Burroughs, c'est-à-dire qui a tué sa femme, John Mitchell, par accident, mais avec un jeu quand même très très cruel, qui était de jouer à Guillaume Tell, alors qu'ils étaient défoncés.
Un pistolet.
Voilà, avec un pistolet, il lui a tiré dessus, et il a raté la pomme. Il en fait pas quelque chose de... Mais pas beaucoup de reproches dans ce geste-là. Ça, c'est un peu délicat aujourd'hui. Ça reste, de toute façon, la tâche... Burroughs s'est toujours présenté comme un infréquentable. La façon même dont il parasite le langage est celle d'un infréquentable, et c'est ce qui fait que c'est un écrivain hallucinant. Un des plus grands du siècle, sans doute un personnage malaisant, enfin Burroughs, et qu'il l'a porté avec lui. Le film, du coup, a du mal à intégrer ce malaise dans un système qui est quand même plutôt très très chic. Et il le fait, mais il le fait finalement à la façon dont le livre lui-même le fait, c'est-à-dire que le film le raconte, le livre le racontait sous la forme d'un rêve et sous la forme d'un rêve hanté, sans réellement expliciter ce qui s'était passé. Et Guadagnino n'intègre pas, entre-temps, ce qui s'est passé, ce que nous on sait. Enfin, voilà. Ce que le livre ne disait pas clairement, voilà. Il est revenu à ça, sans doute, parce que ça l'arrange. Après, ce qu'il fait quand même avec Craig, et je trouvais fascinant, parce que Craig, bon, c'est non seulement James Bond, ce type ressemble à l'idée qu'on peut se faire de Poutine jeune. Pour avoir interviewé deux fois, c'est quand même très troublant, on a l'impression d'interviewer Poutine. Et cela dit, j'ai aussi l'impression que c'est un dialogue avec un autre film qui était Love is the Devil, de Daniel Craig, en 98, bon, ça date un peu, où le jeune Daniel Craig jouait l'amant de Francis Bacon, c'est pas la première fois. Il y a une piste, peut-être, il y a un lièvre, comme ça. Mais ce qu'il en fait, en tout cas, enfin, ce que Craig arrive à amener, et troublant, parce que moi, j'arrive à des moments à imaginer William Lee, à imaginer Burroughs. Mais c'est là aussi où ça m'intéresse, parce que je crois que Guadagnino, à défaut d'être un auteur qui est hanté, est un auteur qui est toujours en dialogue avec d'autres cinéastes. Et notamment là, avec Cronenberg, qui avait fait, je l'avais dit, Le Festin Nu, mais Cronenberg l'avait fait avec Peter Weller, qui était l'acteur qui jouait Robocop. Mmh. Et je pense qu'il y a là un dialogue total avec le cinéma de Cronenberg, mais à la façon de Guadagnino, c'est-à-dire à la, d'une façon un peu décorative, et en même temps, toujours pertinente, toujours intelligente.
Queer de Luca Guadagnino, en salle aujourd'hui.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Deuxième long métrage de Jesse Eisenberg en tant que réalisateur, A Real Pain est aussi au menu de cette émission critique. Jesse Eisenberg a une belle carrière d'acteur derrière lui, avec notamment, on le sait tous, The Social Network en 2010, où il incarnait le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Il a aussi écrit quelques pièces de théâtre, mais il semble que désormais la réalisation soit sa priorité. Avec A Real Pain, qu'il a également écrit et dans lequel il joue, il nous emmène sur les traces de deux cousins américains en voyage organisé en Pologne. Un voyage mémoriel pour honorer la grand-mère survivante de la Shoah. À ses côtés, Kieran Culkin, fraîchement auréolé d'un Golden Globe pour ce rôle. Entre comédie et émotion, l'équilibre tient-il ? On va voir ça, mais d'abord, un avis rapide, Raphaël Pirer.
Oui, je trouve que l'équilibre tient tout à fait entre ce côté buddy movie et road movie, comme ça, entre ces deux cousins dépressifs. Et puis, la question mémorielle et le regard assez critique sur cette mémoire de l'Holocauste qui est... Ce balancement entre ces deux types d'émotions est très bien dosé. Je trouve qu'on peut reprocher aussi au film d'être un peu à l'image de ses personnages, c'est-à-dire d'être un peu auto-centré sur ses émotions et de pas regarder un peu ce qui se passe dans le monde plus globalement.
Mmh. Philippe Azot.
Oui, je vois, bon, comme tout le monde, deux films qui ont, à mon sens, quand même un peu plus de mal à se combiner ou à s'accorder. Mais j'y vois quand même un petit film, enfin un film mineur, qui trouve en chemin de très très grandes choses, et puis un film plus ambitieux qui n'arrive pas à grand chose à certains endroits.
On va écouter la bande-annonce de A Real Pain.
On reste mobile, on reste léger, on reste agile. Quand le contrôleur passera vérifier les billets, on lui dira qu'on va aux toilettes.
Aux toilettes ? D'accord.
Il va partir au fond du train et il va remonter pour contrôler les retardataires.
C'est nous les retardataires ?
Ouais, mais le temps qu'il nous trouve, le train sera en gare et on sera libre.
C'est complètement con. Les billets doivent coûter 12 dollars.
C'est le principe de payer. On devrait pas payer des billets de train en Pologne. C'est notre pays.
Pas du tout. C'était notre pays. Ils nous ont virés parce qu'ils nous trouvaient radins. Oh, t'es tout rouge, là.
Oui, parce que tu m'as collé une de ces beignes.
A Real Pain de Jesse Eisenberg avec beaucoup, beaucoup de Chopin, on l'a entendu. Raphaël Pirer, deux films côte à côte. Vous êtes d'accord avec Philippe Azoury?
D'accord, sur le fait que les films ne se rencontrent pas.
Il y a deux films à côté. Côte,
ouais. Non, moi je trouve que c'est un film sur des émotions qui s'entrechoquent et que ça, le film le maîtrise bien, le fait de sans cesse passer de la comédie à la question de la mémoire,
oui.
Oui, et puis à une comédie de la dépression, quoi. Ça, je trouve vraiment que le nuancier d'émotions est très réussi et que cet acteur, effectivement, Kieran Culkin, qu'on avait découvert dans un tout petit rôle avec son frère Macaulay dans Maman, j'ai raté l'avion, et puis qui est surtout célèbre pour son rôle dans la série Succession, il a effectivement été récompensé par ce rôle où il joue un espèce de personnage totalement extraverti qui est comme un double de son cousin joué lui par Jesse Eisenberg, qui est une espèce de Woody Allen, pour le dire vite, totalement névrosé. Et donc c'est vrai que Kieran Culkin, il arrive à jouer cette espèce d'inconscient comme ça, d'un personnage qui met toutes ses émotions dehors en permanence et qui est imprévisible. Et donc il apporte ça au scénario, le fait qu'on ne sait jamais dans quelle émotion on va être. Mmh. Et sur la question de Chopin, moi j'aime bien la façon dont ses musiques sont calées, d'une façon qui paraît presque aléatoire. Et je trouve que ça augmente cette idée que il y a deux émotions qui persistent en permanence dans le film et qu'on est est dans une mélancolie, dans une beauté, et en même temps dans quelque chose de beaucoup plus trivial, comme on l'a entendu là dans la bande-annonce.
Mmh, oui, là, oui, bataille sur le prix des billets de train, alors qu'ils vont aller visiter un camp de concentration. Le pari est quand même assez osé, Philippe Azoury, de faire une comédie, de buddy movie sur une visite de la Pologne.
Sur la commémoration, sur la mémoire de l'Holocauste, oui. Effectivement, c'est un pari assez osé. Qu'il arrive à tenir. Enfin, le film est de très très bonne facture. Il faut savoir de quoi on parle. C'est ensuite sur la façon dont ça se combine où on peut commencer à regarder en gros plan. Mais c'est vrai qu'il y a Raphaël parlait de Woody Allen. C'est vrai qu'il y a une place à prendre. Et déjà, enfin, sur la première veine, qui est la veine de ce sort de buddy movie new-yorkais, un côté avec donc un cousin hypochondriaque qui est Jesse Eisenberg et un complètement exubérant qui est Kieran Culkin, avec quelque chose qui pourrait rappeler dans son énergie le fanfaron de Dino Risi avec Trinity et Gassman, sans évidemment, mais avec un côté beaucoup plus beige, beaucoup plus new-yorkais, en tout cas sur le début et la fin. Et avec aussi quelque chose qui est troublant sur cette veine-là, en fait, du film un peu hipster qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, c'est que moi, j'ai réalisé tout à coup que Jesse Eisenberg n'est plus un ado qui fait la gueule, il a 41 ans. Ouais, c'était 2010, Social Network, le temps passe, même pour moi. Et aussi pour eux, et que du coup, bah oui, effectivement, les questions ne sont plus celles de quand va sortir le prochain Vampire Weekend, ou quel est le meilleur café latte de Brooklyn, mais qu'est-ce qu'on fait de nos origines, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire, comment on s'inscrit dedans. Du coup, la question est intéressante de les faire partir en Pologne, de continuer le régime malgré tout face à l'histoire de cette petite musique. Alors je ne sais pas si c'est Chopin ou pas Chopin, mais cette petite musique, en tout cas de la comédie new-yorkaise, qui arrive à croquer. Et là-dessus, il est quand même très très fort, parce qu'il n'y a pas un personnage, il y a beaucoup de personnages secondaires, et il n'y en a pas un seul.
C'est un voyage organisé. Il y a plusieurs personnes qui participent.
Voilà. Et il y en a pas un seul qu'on oublie. Même les deux personnages qu'on voit vers la fin devant la maison de la grand-mère, ce qui a été la maison de la grand-mère et qui sont sur le balcon, en fait, on s'en souvient. Je pourrais les dessiner. J'ai vu le film il y a 15 jours. Ça, c'est assez fort. Ça veut dire qu'il y a un intérêt sarcastique, mais pas seulement, à vouloir s'emparer des personnages secondaires et les faire exister. Ce que je trouve qui marche moins bien, mais c'est presque, en fait, c'est aussi l'intérêt du film, et plus j'y pense, et plus je pense que le film est quand même pas mal là-dessus, c'est que en fait, le Holocauste ne se visite pas, la mort ne se visite pas, et que le voyage est évidemment un échec, de la même manière que la combinaison entre ces deux cousins qui n'arrivent pas à se retrouver parce qu'ils partent sur des chemins complètement différents, même si finalement ils sont aussi névrosés et aussi malades que l'autre, la rencontre se fera après, une fois, quand on sort du film. Même moi, enfin, je pense que j'ai beaucoup plus de plaisir à repenser au film aujourd'hui que je ne l'ai eu finalement quand j'ai vu le film il y a 2 semaines, et l'après-midi où j'en suis sorti, je trouvais que c'était quand même pas grand chose. Aujourd'hui, le film travaille très très bien en moi, mais de la même manière que je pense que quiconque visite les camps de concentration en Pologne ne ressent rien sur l'instant, est déçu. Enfin, déçu, on ne sait même pas de quoi, mais en fait déçu de ne pas avoir ce choc-là. Enfin, c'est-à-dire que l'histoire ne provoque rien, et c'est ensuite sur le chemin retour que quelque chose se fabrique. Et c'est là où, sur Chopin, je trouve qu'il a... Il tente un truc sur la visite, il tente un silence. Ce silence, il coupe le son, comme ça, pendant quand ils sortent du camp. Ça dure une minute, à peu près, un peu moins d'une minute. Se disent pas mal.
Je pense que c'est très court. C'est en fait, le court. Vrai silence,
le
je
ressenti,
pense que c'est quelques secondes. Oui. En fait, ça
aujourd'hui.
A tellement parlé auparavant que ce ouais. silence, on le ressent extrêmement fort, mais je crois qu'il est extrêmement court.
Et paf, il colle Chopin tout de suite après. Ça, il peut pas s'en empêcher. C'est vrai que ça chopine beaucoup.
Il y a une impossibilité à montrer, effectivement. Comment il s'en sort de ça, Jesse Eisenberg?
Il s'en sort dans cette forme muséale. Il y avait eu un documentaire il y a quelques années qui s'appelle Auschwitz, fait par le réalisateur, le documentariste ukrainien Sergei Loznitsa, où il se moquait de ces visites guidées, qui emplissent comme ça le Auschwitz de touristes en short. Et donc, il se moquait beaucoup de ces images-là. Jesse Eisenberg, il va pas de ce côté-là, il va du côté de lui-même faire un endroit dans son film pour qu'on puisse penser à ce camp qui est le camp de Majdanek. Et c'est vrai qu'il y a une sidération de ces personnages qui ont été bavards pendant tout le film et qui d'un coup se taisent et sont tenus par le silence. Et c'est quand même très beau ce moment où on passe à travers les chambres à gaz et où on voit les traces du gaz zyklombé qui font des traces bleutées sur les murs. Et ça a une force quand même. Il se sort bien de cette question-là qui est quand même pas évidente de mettre en scène ce décor-là.
Et il se moque beaucoup lui aussi des voyages mémoriels comme ça, et notamment du fait qu'il y a trop de paroles, c'est ce qui revient.
Ah oui, il y a trop de... On explique trop, et le film ne cherche pas à expliquer tant que ça, finalement. Il voudrait s'approcher de ça, bouche cousue, et puis finalement il fait l'inverse, il fait du Woody Allen. Mm-hmm. C'est quand même assez intriguant. Là, quand je disais qu'il y avait peut-être un film mineur, qui est cette petite comédie à la Woody Allen, pas si mineur que ça évidemment, mais qui trouve de grandes choses, parce qu'il y a quelque chose de... Ce que fait Kieran Culkin est complètement incroyable dans le film. La combinaison des deux est assez magique. Et j'étais un peu plus critique sur le film plus ambitieux, celui justement qui porte la déception, qui est un film déceptif, qui porte la déception dans son projet. Et je lisais dans, je crois que c'était en Libération ce week-end, où il racontait qu'en fait le désir profond de faire ce film, Jesse Eisenberg racontait qu'il était venu d'une conversation, et c'est pas étonnant, avec Brady Corbett qui est aussi un acteur,
et qui est
aussi
un acteur de The Brutalist,
et qui est aussi un acteur aimé de la critique. Enfin, ils ont un peu nos deux correspondants des critiques européens ou des cinéastes européens. L'un tourne avec Assayas, l'autre avec Bonello. Enfin, déjà, on trouve des choses comme ça. Et Brady Corbett lui disait qu'il préparait The Brutalist, dont on voit, enfin, c'est pas un film que j'aime beaucoup, The Brutalist par ailleurs, mais dont on peut pas lui reprocher de manquer d'ambition. Enfin, c'est presque, on peut lui reprocher d'en avoir presque trop. Et c'est vrai que là, Jesse Eisenberg amène quelque chose de différent, d'un peu plus mineur. Peut-être il a raison. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la comparaison entre les deux films, entre un qui part de la Pologne pour aller aux États-Unis et un qui va des États-Unis pour aller à la Pologne, fait que les deux films ne se rencontrent pas du tout sur la forme. Alors que c'est deux cousins, en fait. Les deux vrais cousins, c'est Brady Corbett et Jesse Eisenberg.
Et sur le Raphaël Pirard.
C'est un voyage que Jesse Eisenberg a réellement fait. Sa grande tante a quitté la Pologne, a fui l'Holocauste. Et donc lui-même, il a fait ce road movie avec sa femme. Et donc, il a aussi abouti à une forme de déception, puisqu'il a pris en photo la maison de sa grande tante et il lui a rapporté à New York. Et elle lui a dit: mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai pas vu cette maison depuis des décennies.
Il y a un côté Daniel Arras, on n'y voit rien. Quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à voir.
Et dans sa façon de filmer ça, la visite de Lublin, des choses comme ça
En fait, le film prend la forme de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire qu'on est dans une Pologne de cartes postales, dans des belles images. Et donc, le cousin joué par Kieran Culkin dit en fait, on ne voit jamais de Polonais, on ne voit pas de vrais personnages. Quand ils en croisent deux, en fait, ça ne se passe pas bien du tout et la discussion n'est pas possible, passe par de la traduction, ils ne se comprennent pas. Mais le film met en scène le fait qu'il ne peut filmer de la Pologne que... Une image touristique. Mmh.
Ça ne peut que rater, quoi.
Mmh. A Real Pain, le deuxième film de et avec Jesse Eisenberg et Kieran Culkin, qui sort également aujourd'hui. Merci beaucoup Raphaël Pereira, Philippe Azoury, d'être venu dans les Midi de Culture pour nous parler de cinéma aujourd'hui. Évidemment, les références et les infos sur tous ces films, c'est sur la page des Midi de Culture que vous les retrouvez.